Nous sommes en compagnie de Chubing Chu et Félix Torres. Chubing Chu est architecte, spécialiste de l'architecture chinoise, de l'histoire urbanistique de Pékin. Et Félix Torres est éditeur, historien et anthropologue. Chubing Chu a participé à l'écriture de ce très beau livre d'histoire, d'architecture et de photographie qu'est Pékin, métamorphose d'une ville, édité par Félix Torres. Alors Félix Torres, comment est née l'idée de cet ouvrage sur Pékin ?
Écoutez, moi je suis un passionné de Pékin, je suis tombé amoureux de Pékin le premier jour où je suis arrivé dans cette ville. Et j'ai découvert, bon, en visitant la ville, au-delà de la cité interdite, qu'il n'y avait pas de livres, de bons livres de référence sur Pékin. Je crois qu'un voyageur se déplace toujours quand même avec des livres dans la tête. Moi j'avais deux textes dans la tête qui étaient deux écrivains français parmi d'autres, Pierre Loti, qui était à Pékin en 1900, au moment de la révolte des Boxers. Il aurait, paraît-il, couché dans le lit de l'impératrice, qui était ce qui s'était enfui. Et surtout Victor Segalen, qui avait quand même écrit quelques romans sublimes, dont René Leys, qui est autour de la métaphore de la cité interdite comme impossibilité d'accès à l'essentiel. Et donc de cet écart entre la ville mythique, rêvée, historique du début du XXe siècle, la ville impériale, et le Pékin d'aujourd'hui, il y avait un écart que j'avais. Question de devenir les Pékinois, quand c'est que Pékin a commencé à changer. Bon. Donc Pékin a une histoire très riche qui commence qu'un siècle plus tôt, mais qui ne se résume pas à la destruction récente, avec la modélisation accélérée de la ville depuis la transformation de la Chine. Donc de ce grand écart est née l'idée de faire un livre, qui est un livre de passionnés, et je crois. J'ai voulu faire un livre qui ne soit pas un regard exotique ou un livre de photographie de plus sur Pékin. Donc il y a un auteur chinois, chez Bing Chu, il y a une auteure française, Stéphanie Olivier, qui vit à Pékin. Il y a un photographe français, Jean-Lionel Diaz. Et il y a un photographe chinois, Li Yuxiang, qui vit à Pékin, qui est chinois. Et puis il y a des portraits de Pékinois aussi. Ce n'est pas seulement le portrait d'une ville de pierre qui disparaît, c'est aussi le portrait d'une ville de chair avec des Pékinois d'hier et d'aujourd'hui, c'est-à-dire une ville, quoi.
Oui, c'est un portrait sensible. Alors, Chubing Chu, quand Félix Torres vous a demandé de participer à l'écriture de ce livre, qu'est-ce que vous avez pensé ?
Pékin est une ville qui disparaît, qui a disparu peut-être, donc c'est selon chacun, ou c'est une ville qui est en train de naître. Personnellement, moi, je travaille sur la mémoire. Je pense qu'une ville ne peut pas exister sans mémoire. Et ce qu'on est en train d'effacer, c'est un pan de mémoire de Pékin. Donc, travaillant sur la mémoire, travaillant sur le patrimoine, c'est un sujet qui me tient à cœur. Pékin, je l'ai connu. La première fois que j'étais à Pékin, c'est au tout début des années 70. Pékin, je dis toujours, j'ai deux regrets dont l'un, j'aurais peut-être pu combler. Mes deux regrets, c'est de ne pas avoir vu les murs de Pékin.
Oui.
Les murs de Pékin. Et l'autre, c'est de ne pas avoir vu le cœur de Pékin, c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui la place de la paix céleste, Tiananmen, sans le mausolée de Mao, au risque de paraître iconoclaste.
Donc c'est ça, vous avez raté ces deux témoignages du passé, mais qu'on retrouve dans Pékin, métamorphose d'une ville impériale, puisqu'une des grandes qualités de cet ouvrage, ce sont les photographies anciennes, en nombre important, moi j'ai trouvé, et on n'a jamais vu Pékin comme ça, et j'avais l'impression qu'on pouvait le voir comme justement l'avaient vu Pierre Loti et Victor Segalen. Est-ce que ça vous a fait cet effet, Félix Torres ?
Marcel Proust, puisqu'on parle de mémoire, disait « la réalité ne se forme que dans la mémoire ». Je pense qu'on bâtit, c'est vrai, des histoires ou des livres sur des regrets. Moi aussi, c'est vrai qu'il y a cette description des murailles surhumaines de Pékin, comme les appelait Pierre Loti. Après, il fallait raconter l'histoire de cette ville impériale jusqu'en 1911, la chute de l'Empire et la proclamation de la République de Chine. On a fait le choix, non pas de faire un livre historique de plus, mais à partir du texte de Chubing Chu, de prendre des photographies du début du XXe siècle, début du XXe siècle aux années 30. Et c'est vrai que c'est des photographies noir et blanc de visiteurs occidentaux, français, anglais, australiens. Ils s'en dégagent, bien sûr, il y a une grosse sélection, bien sûr, on a pris les meilleurs, mais ils s'en dégagent une sorte de poésie indicible. Je crois qu'il y a le mot de Segalen qui flotte sur ce livre, au début de René Leys, il dit, le roman qu'il a écrit, il dit « on ne peut disconvenir que Pékin ne soit un chef-d'œuvre de réalisation mystérieuse ». Donc une double négation pour dire « il y a un mystère ». Alors, je ne sais pas s'il y a un mystère dans l'histoire de Pékin, mais au moins, autour de ce mystère, on peut bâtir un trajet visuel et aussi historique, c'est-à-dire le voyageur du début du XXe siècle arrive au pied des murailles, avec des caravanes en général, il rentre dans la ville, Il rentre dans les rues marchandes, il s'approche des... Pékin est une ville avec deux, trois, plusieurs murailles. Il y avait notamment la cité impériale au sein de la ville tartare, et puis la cité interdite qui, par définition, on n'y accède pas. Tant que l'empereur est là, nul n'a le droit d'y aller, sauf bien sûr quelques initiés. Et à partir de ça, de fait de dire, on rentre dans une ville, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être aussi bien Moscou que New York, ou Naples, ou Madrid... Peut-on aller jusqu'au bout des choses? Peut-on tout découvrir? Non. Et c'est de ce mystère que naît justement la recherche iconographique, l'écriture à plusieurs, les photographies. C'est-à-dire, on refait un parcours visuel et c'est parce qu'il y a une perte, c'est parce qu'il y a du deuil qu'on peut bâtir une quête sur ce vide.
Et à Pékin, on y entrait en caravane avec des chameaux. J'ai vu ça sur les photographies des années 1900. Alors on a évoqué ce mystère dont parle Victor Segalen. Chebing-Chu, c'est quoi pour vous le mystère de Pékin?
Toute grande ville a ses fondations qui sont mystérieuses. Quand on prend Rome, bah Pékin a ses mystères dans ses fondations. J'ai essayé de donner un petit peu aussi ces mystères. Comment la ville de Pékin, mystérieusement, a été fondée. Et puis, on a recours aux sources historiques. Pékin, c'est... ceux qui ont fondé Pékin, c'est pas l'ethnie Han. L'ethnie Han qui est majoritaire, donc... puisque le peuple chinois est à 95% Han, ce sont des Mongols. Mais néanmoins, le fondateur, celui qui a tracé, en quelque sorte, Pékin, c'est un Chinois, c'est un conseiller donc, de Kupi Lai qui a été chargé d'inspecter le site, d'en tracer, etc., etc. Donc, bien sûr, Pékin est de moins en moins mystérieux. Mais encore, si on va dans ces petites ruelles, on retrouve encore... Pékin, c'est une ville avec ses murs, avec ses quatre enceintes, malheureusement, qui n'existent plus, ou de tout petits tronçons. Mais c'est aussi un esprit. L'esprit qui règne sur Pékin est quelque chose d'incommensurable.
Puis faire l'histoire de Pékin, c'est faire tout simplement l'histoire de la Chine entière aussi, puisque c'est la capitale depuis le 14e siècle,
15e siècle. Un peu avant. À partir de la dynastie des Yuan, c'est 13e.
Oui, ça fait quand même
quelques siècles.
Un certain temps. Alors on va essayer d'approfondir le mystère de cette ville. Le mystère de cette ville tient évidemment au plan, qui est tout à fait exceptionnel. C'est un plan qu'on ne trouve nulle part ailleurs en Chine, et en tout cas peut-être dans le monde, parce que ce plan répond aux règles de la cosmologie chinoise.
Alors on parlait de l'approche, on arrive par, ça dépend d'où on arrive, on peut arriver par voie d'eau, hein, c'est le grand canal, hein, puisque le grand canal qui acheminait tous ces denrées, tous les graines, les céréales, les marchandises, par le grand canal, donc depuis le sud de la Chine, qui est vraiment le grenier. Et on peut arriver par le train au début du siècle. Hein, et je me souviens toujours de Lao Tzu qui disait, qu'est-ce qu'on voit? Les murs, ces bastions absolument extraordinaires, ces contreforts, quelque chose de surhumain, effectivement. Et je crois toute ville en Chine possède des murs. Toute ville digne de ce nom possède des murs. D'ailleurs, en chinois, il y a même caractère qui est utilisé dans la composition du mot ville et du mot muraille. Une ville digne de ce nom possède forcément ses murs. Donc Pékin possède quatre enceintes. Trois enceintes concentriques, vous avez la cité interdite, ensuite la ville impériale et ensuite la ville intérieure, c'est-à-dire l'enceinte première en quelque sorte. Et puis après, avec des invasions, avec les guerres, au XVIe siècle, l'empereur a voulu construire une quatrième enceinte qui, si cette enceinte aurait été terminée, aurait englobé encore les trois autres enceintes à l'intérieur. Mais la dynastie des Ming était un petit peu faible et le trésor était vide et on a été obligé de raccourcir. Donc ce qui fait la physionomie absolument extraordinaire de cette ville, d'une carré posée sur un rectangle qui s'emboîte.
Oui. Et dans la cité interdite vivait le fils du ciel, donc, et donc le ciel est rond. Donc il y a un rapport géométrique entre toute cette construction.
C'est ce qu'on appelle le feng shui. Un feng shui que très improprement on traduit par un terme qui existe, qui est la géomancie, mais qui n'a rien à voir dans un certain sens. Il ne s'agit pas d'une mancie, il ne s'agit pas d'interroger. Enfin, si on, mais on peut dire une sorte de, d'étude de site. C'est trouver l'harmonie entre le bâti humain, en quelque sorte, l'œuvre, et son environnement. On appelle ça la cytologie. Donc, effectivement, le feng shui a été, bien sûr, l'un des éléments qui ont déterminé que l'on établisse. Mais c'est d'abord la volonté d'un empereur. C'est la dynastie des Ming. Nous sommes au début du XVe siècle. L'empereur a voulu, sans entrer dans les détails, l'empereur a voulu affirmer, en quelque sorte, sa puissance en déplaçant la capitale de Nankin jusqu'à Pékin. Et sans reprendre totalement le site de l'ancienne ville des Mongols, le fameux Kambaluk de Marco Polo, qui avait tant intrigué et émerveillé Marco Polo, le grand voyageur. Et c'est Kambaluk, c'est la cité du Grand Khan.
Oui, et en construisant cette ville, il s'est référé aux règles habituelles de la culture chinoise, donc.
Totalement, c'est-à-dire la ville n'est pas surgie du néant. Pékin est le dernier chaînon, en quelque sorte, de 1000 ans au 15 siècle de l'évolution urbanistique. On reprend l'orthogonalité. Effectivement, dans la cosmogonie chinoise, le ciel est rond et la terre carrée. Donc si on peut reprendre, par exemple, l'exemple d'une carapace de tortue, la base est quadrangulaire. Et il y a la carapace qui est ronde, c'est le ciel, c'est l'éternité en quelque sorte. Atteindre l'œuvre divine.
Alors justement, Pékin était une ville sacrée. Quelle religion on pratiquait à Pékin, Félix Torres?
Oui, je crois qu'il y a un point important, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une ville. Pékin, un petit côté New York, je dirais, c'est-à-dire c'est la Chine, et c'est pas tout à fait la Chine, parce que ça a été fondé par des Mongols. C'est une ville qui a longtemps été à la frontière nord de la Chine. Les Houtongs, dont on parlera peut-être un petit peu, c'est des choses mongoles. Donc quelque part, c'est une ville mixte, de ce point de vue-là. Et dans la tradition mongole, il y avait une très grande tolérance, c'est-à-dire qu'il y avait toutes les religions de l'Empire. Alors, à certaines époques, bon, pour prendre un seul exemple, la dynastie des Qing et la dynastie Manchu qui s'installe après la chute des Ming, animait beaucoup le bouddhisme, notamment le bouddhisme lamaïque. Donc il y a des temples qui ont des formes lamaïques en plein Pékin, toujours aujourd'hui, et qui étonnent, le Dagoba blanc et autres, le temple des Lamas très connu, mais aussi le taoïsme. Il y avait quelques églises chrétiennes quand même, nestoriennes, il y a eu des juifs. Bon, c'était un carrefour. Moi, je dirais le point important, c'est une ville sacrée, c'est une sorte de Jérusalem chinoise, Pékin, parce que l'empereur y est. Et quand la dynastie Qing tombe avec le dernier empereur, Puyi, et la République est proclamée, la ville, avant même l'arrivée des communistes, avant les transformations à la fin du XXe siècle, devient une sorte de gigantesque linceul de pierre. Les murailles sont toujours là, les temples sont toujours là, mais la ville se banalise. Et Ségalène l'avait très bien dit, il avait dit... Je trouve que Pékin a beaucoup changé, alors qu'il est là encore jusqu'en 1912. Alors, sur cette transformation, je vous dis un petit mot. Il y a un mot de Michaud que je ne résiste pas de citer, c'est « les Chinois ont l'âme concave ». La Chine d'avant, c'était, comme l'a dit chez Michaud, c'est une Chine enfermée par des murs et d'autres murs. Et on arrive, on en ira peut-être un mot, sur les maisons à cour carrée, qui sont à nouveau des murs dans des murs. Et je crois que la Chine, un des éléments de la transformation de la Chine au XXe siècle, c'est que cette concavité chinoise, cet enfermement derrière différentes barrières, même s'il y a encore du mystère en Chine, a beaucoup changé. Je pense que l'âme chinoise a changé, elle est devenue beaucoup plus extravertie, beaucoup plus ouverte vers le monde. Et Pékin, à cette image, n'est plus le Pékin, ce Pékin mythique dont nous parlons, impérial, dont nous parlons en ce moment.
Bien sûr. Alors Pékin aussi a eu plusieurs noms avant de s'appeler Beijing, Chebingchu, les différents noms de Pékin.
À l'origine, c'était vraiment, c'est le septentrion, c'est le nord, c'est les barbares. Le sud a toujours été prospère, c'est-à-dire les céréales, le commerce, c'est surtout la Chine du sud. Et le nord, c'est ce qui est à l'écart, c'est-à-dire à l'époque on appelait Yu, c'est-à-dire ce qui est à l'écart, ce qui est à la périphérie. Et après, ils ont pris d'autres noms, effectivement, parmi les plus connus, c'est Yen, puisqu'il y a une montagne qui s'appelle Yen, l'hirondelle. Et après, ça a été Kambaluk, ou Hanpali, en chinois on dit Hanpali, enfin en mongol, la cité du Grand Khan. C'est devenu après, Beijing, c'est-à-dire la capitale du Nord, par opposition, en quelque sorte, à Nankin, qui est la capitale du Sud. Et il y a eu aussi le nom comme Beiping, c'est-à-dire la paix du Nord. Hein, c'était pendant la République, mais bon, depuis 1949, c'est Beijing, capitale du Nord.
Moi, je me suis toujours demandé pourquoi nous, on l'appelait Pékin, mais bon, ça, vous avez peut-être
c'est
une réponse.
C'est la transcription phonétique. Hein, Pékin, Beijing.
Oh, c'est quand même assez loin, comme...
on connaît un petit peu mieux le chinois, donc on prononce un petit peu mieux, mais au début du 20e, avec les étrangers qui se sont établis, c'est récent. Effectivement, c'est une ville à l'origine sous les Mongols extrêmement cosmopolite, hein, puisque les Mongols employaient énormément de conseillers des musulmans. Mais les étrangers, à proprement parler, c'est-à-dire les Occidentaux, se sont établis dans la ville de Pékin qu'après la deuxième guerre de l'opium, après le traité de Pékin. Hein, le fils du ciel ne voulait... On pouvait venir apporter des tribus. Hein, la rencontre Chine-Occident, c'était... moi, personnellement, je considère que c'est une méprise assez totale, hein, puisque pour ne prendre que l'ambassade de Marc Carné, qui était... rendu très célèbre, pour l'empereur de Chine, c'était un porteur de tribut du roi d'Angleterre, et non pas une ambassade. Donc l'empereur du ciel, le fils du ciel, l'empereur de Chine, ne voulait surtout pas qu'il y ait des barbares, hein, puisqu'il y a un complexe de supériorité, si on veut, surtout pas de barbares dans sa ville.
Par contre, les jésuites se sont mieux intégrés.
Les jésuites étaient serviteurs à la cour de l'empereur. Là aussi, la rencontre jésuite venue évangéliser, c'était aussi une méprise assez exceptionnelle.
Félix Torres sur Pékin, Beijing.
Mais je crois qu'il y a un élément intéressant dans le livre, c'est cette période de Beiping, la paix du Nord, quand Pékin cesse d'être la capitale à partir des années 20, quand c'est Nankin, jusque l'arrivée des communistes en 1949. C'est quand même l'époque où c'est le grand Lao Tse écrit ses gens de Pékin, quatre générations sous le même toit, c'est-à-dire, au fond, je dirais qu'aujourd'hui, le visiteur qui va à Pékin et qui se prenne dans les houtons, dans ce qui reste de la vieille ville, c'est pas la ville impériale qu'il retrouve. Elle a disparu il y a très longtemps, déjà. Il retrouve le Pékin du milieu du XXe siècle, cette sorte de Beiping oublié, c'est plus la capitale, la ville flotte dans des habits trop grands, il y a le petit peuple de Pékin, des Mandchous déclassés, il y a des gens qui viennent des campagnes. Ça, dans le livre, on a aussi voulu faire le portrait de Pékinois. Le Pékinois, il y a aussi peut-être des gens qui étaient là depuis l'Empire, c'est clair. Mais aussi les gens qui sont venus des campagnes. Le Pékinois, il vient de partout, puis il est très fier d'être Pékinois. Donc on n'a pas voulu aussi s'enfermer dans une vision historique en disant « Ah, il y avait le Pékin historique, impérial, immémorial, et puis maintenant, bah, qu'est-ce qu'il en reste ?» Non, je dirais la ville a beaucoup changé au XXe siècle. Elle n'était plus la ville cosmique qui avait fasciné ses galènes. Alors après, il fallait quand même en dire un mot. On rentre dans l'époque la communiste, c'est-à-dire et quand même un mystère. C'est pourquoi Mao Tse-Tung choisit Pékin comme capitale, alors qu'il est un homme du Sud, alors qu'il n'aime pas Pékin. Il a été à Pékin en 1919, obscur aide-bibliothécaire, complètement snobé par l'intelligentsia, et pourtant, il fait de la libération de Pékin en 1949 par les troupes communistes, alors qu'ils avaient conquis tout le reste de la Chine. Il en fait le symbole de la Chine nouvelle, de la nouvelle Chine. Et point capital, il proclame à Tiananmen la République populaire de Chine. Et cette proclamation sur cette place, je dirais la recharge d'un nouveau mythe, qui est le mythe de la République populaire de Chine, et clairement pour la Chine actuelle, pour les communistes, enfin, pour la Chine d'aujourd'hui, le Pékin d'aujourd'hui, c'est là où le président Mao a proclamé la République populaire de Chine. C'est un nouveau, je dirais, lieu mythique, un nouveau lieu de mémoire.
Oui, et puis Mao endossait les habits de l'empereur en proclamant la République place Tiananmen.
Si l'on veut. Alors, quelque part, le dernier empereur n'est pas Puyi.
Non, tout à fait, oui, oui, ça j'en suis bien convaincue. Et d'ailleurs, dans votre ouvrage, vous citez Mao qui a dit « Détruisez l'ancien et construisez le nouveau ». Alors, évidemment, on a dit tout à l'heure qu'il ne restait rien des murailles, des tours et des portes de Pékin, mais on s'en souvient par contre par le nom des boulevards ou des stations de métro, qui ont gardé le nom.
Faut pas oublier que le métro, une partie du métro, a été édifiée sur la trace des anciens murs. Donc effectivement, toutes les portes de cette enceinte ont donné le nom à des stations de métro.
C'est bien, on n'a pas perdu la mémoire comme ça, Félix Torres.
Oui, ce qui est assez émouvant, la Chine nouvelle s'est voulue complètement radicale, révolutionnaire, la fameuse table rase de l'international, cette page blanche, comme disait le président Mao, sur laquelle on peut écrire les plus beaux poèmes. Construisez l'ancien, détruisez l'ancien, construisez le nouveau. Et en même temps, quand on regarde Pékin aujourd'hui, la place Tiananmen est toujours là, même si elle a été élargie. Le pavillon dans lequel Mao a proclamé la République populaire de Chine, c'est quand même un pavillon historique. Les ponts qui mènent à la cité interdite sont historiques. C'est-à-dire que quelque part, la Chine actuelle, dans sa modernité, garde, je crois, on ne le souligne pas assez dans le décollage actuel de la Chine, la Chine reste très chinoise et reste très marquée par sa civilisation et son histoire. Et donc, je crois qu'il faudrait comprendre Pékin, comprendre la Chine, pas seulement à l'aune de ses transformations actuelles, mais aussi en l'inscrivant dans une histoire très longue, dans une longue durée. Et le visage de Pékin aujourd'hui montre qu'on veut changer tout, et pourtant des choses demeurent ou ressurgissent sous le nouveau.
Tout à fait. Alors depuis tout à l'heure, on parle de Hutong. On a évoqué la maison à cour carré, dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom. Chibingchu, une maison à cour carré, ça se dit.
Si on veut prononcer la chinoise, c'est Sihuyuan.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un Hutong et cette maison à cour carré? Parce que je ne suis pas sûre que quand on est occidental, en fait, on se promène dans Pékin, on se dit, tiens, je suis dans les Hutong, mais c'est quoi réellement?
La conception de Pékin a été extrêmement planifiée. C'est-à-dire, on a repris la ville octogonale, en quelque sorte, hein, des voies qui se coupent à l'angle droit. Donc Pékin, à l'origine, sous la dynastie des Yuan, c'était exactement ceci, avec une réglementation extrêmement stricte, une planification parfaitement programmée. Donc les grandes voies qui sont sud, nord, est, ouest, c'est 24 pas. Les petites rues, d'autres petites voies, c'est 12 pas. Après, c'est 6 pas, 3 pas. Donc, une Hutong, est-ce que c'est Hutong? C'est un mot donc mongol. On n'est pas très sûr de son étymologie. Ça a un rapport avec l'eau. C'est un puits, c'est un lieu où on peut se rassembler parce qu'il y a de l'eau. Hein, puisqu'il ne faut pas oublier, les Mongols étaient nomades. Donc, la présence de l'eau est extrêmement importante. Donc, Hutong, ce sont ces venelles, ces ruelles qui desserrent un certain nombre de maisons. Donc toutes ces maisons forcément sont orientées sud-nord, soit au nord d'un Hutong, soit au sud d'un Hutong. Les portes s'ouvrent toujours sur ces Hutongs. Donc ces maisons sur cour, à l'origine, il y a un décret impérial qui fixe même la superficie d'une parcelle. Donc c'est la superposition en fait de deux maisons sur cour, donc ces fameux Sihuyuan. Sihuyuan, ça veut dire, on l'a traduit aussi par quadrange, hein, c'est-à-dire c'est une cour carrée centrale autour duquel vous avez quatre corps de bâtiments.
Finalement, ça ressemble à une villa romaine.
C'est exactement la même chose. On peut comparer effectivement avec la cour absolument qui est ouverte au ciel. En chinois, on appelle le Tianjin, c'est-à-dire le puits du ciel.
Alors la cour est ouverte au ciel, mais par contre le Sihuyuan n'a pas de fenêtre.
Toutes les ouvertures. Alors vous avez deux possibilités. Effectivement, vous savez, le chinois est très introverti. Hein, donc on n'aime pas que les activités se passent, en tout cas dans le temps.
Voilà, on est bien chez soi.
On est bien chez soi. Donc tout est tourné vers cette cour. Donc toutes les ouvertures principales, portes, fenêtres, etc., sont tournées vers cette cour intérieure où toute l'activité se passe. Alors sur rue, effectivement, vous avez une porte et parfois, en partie haute, vous avez des ouvertures qui sont où le regard ne porte pas.
Alors justement, dans votre ouvrage, vous publiez le témoignage de Li Langfang, qui habite un Sihuyuan. Et dans cette maison à cour carrée, il y a plus de 100 familles. Ça fait quand même du monde, Félix Torres.
Ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est que tout le plan que décrivait Chibingchu, c'est-à-dire toute cette organisation, parce qu'il y avait des Sihuyuan qui étaient pour des familles aisées, d'autres plus modestes, tout ça se disperse dès l'instant où Pékin, une capitale de la République populaire de Chine, voit affluer des migrants de toute la Chine, si on veut, notamment du Nord. À partir de là, il y a un entassement des familles. Alors, il y a aussi... C'est une révolution. Donc, comme disait le président Mao, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc, des grandes propriétés aristocratiques, on expulse les propriétaires, on les cantonne dans une pièce, et puis des familles... Là où il y avait une famille aristocrate, maintenant, on a 10, 15, 20 familles qui sont là depuis des fois 30, 40, 50 ans, je dirais. Donc il y a un entassement. Donc ce Pékin traditionnel qu'on voit aujourd'hui, les Hutongs dans lesquels on se promène, qui sont quand même un environnement, quand il n'est pas restauré, on en parlera, je l'espère, très délabré, c'est pas les Hutongs impériaux. Hein. C'est, c'est, c'est le fruit de l'entassement de migrants et de générations dans un univers qui n'a jamais été modernisé. Ce qui fait que c'est des conditions de vie déplorables et un entassement assez important.
Alors justement, est-ce qu'on peut les restaurer, ces hutongs, Chebingchu?
Le hutong, c'est les ruelles. Donc, ce sont des maisons qu'on restaure. Donc, ces grandes maisons qui peuvent... Effectivement, les grandes demeures, en Chine, on parle... C'est l'unité n'est pas la même. C'est l'unité, c'est le creux. Dans le temps, on disait, j'habite la première cour, la deuxième... Enfin, ma pièce d'habitation, quand c'est dans la Chine traditionnelle, donc le fils aîné, le fils cadet, on dit je suis dans la première cour, deuxième cour, troisième cour, donc ça peut aller avoir deux, trois cours, et même quand ce n'est pas suffisant, à ce moment-là, on a un deuxième axe, troisième axe, on peut avoir un jardin qui est à l'arrière de la résidence ou sur le côté. Donc ces maisons, effectivement, actuellement, on restaure. On restaure, il y a des hôtels. Si vous êtes intéressé d'aller visiter Pékin, vous pouvez loger dans une maison sur cours, soit chez l'habitant, puisque ça se fait maintenant depuis notamment les Jeux Olympiques, ou il y a de plus en plus d'hôtels qui sont dans des anciennes maisons qui sont restaurées. Je pense que là, effectivement, bien sûr, on peut restaurer ces maisons sur cours, il n'y a aucun problème.
Mais ça coûte très cher.
Ça coûte évidemment plus cher. Et voilà. Je pense que la politique du patrimoine, c'est une volonté politique. Est-ce qu'on a envie de restaurer? Est-ce qu'on donne l'argent pour restaurer? Ou est-ce qu'on laisse effectivement ce patrimoine? Le patrimoine n'est pas uniquement sur les temples, les palais, etc. C'est aussi ces maisons qui témoignent d'un passé, qui témoignent d'une mémoire. Et personnellement, moi, je considère que l'esprit qui régnait, ces petits gens... comme disait tout à l'heure M. Torres, ces petits gens font aussi la mémoire des Pékin et qui est en train de perdre parce qu'on ne vit pas, absolument pas, de la même manière. Quand vous êtes dans des Sireuens, vous parlez avec vos voisins, etc. On s'installe le soir, l'après-midi, en fin d'après-midi, quand on rentre du travail, on prend un petit banc, on s'installe à la porte de son Sireuen. Et maintenant, avec ces tours de 10, 15, 20, 30 étages, c'est comme ici en Occident, on n'a plus du tout de rapport de voisinage.
Mais il y a une notion très intéressante qui évoque Xi Qing, l'architecte que vous interviewez dans votre livre, qui dit « Pour les Chinois, rien n'est bâti pour durer. La seule dimension qui perdure est spirituelle. » C'est un petit peu ce que vous dites. Ce qui est important et qui reste à Pékin, c'est l'âme des Pékinois. Et j'ai même vu dans votre livre qu'on a beau mettre les Pékinois à l'extérieur, en banlieue, au bout du 6e périphérique et au 50e étage, eh bien, quand il fait chaud, qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent au rez-de-chaussée, ils installent une petite table en formica, ils jouent aux cartes, ils discutent entre eux et se recréent la sociabilité d'antan. Alors, Félix Torres, un mot de conclusion?
Oui, on pourrait diverger avec Chebingchu. Bon, une ville se transforme. Ce qui est arrivé à Pékin dans les quartiers traditionnels, c'est ce qu'on appelle la gentrification, c'est-à-dire que les centres-villes des grandes villes occidentales et maintenant chinoises, ce sont les gens qui ont les moyens. Maintenant, les anciens Syriens sont restaurés avec des portes de garage. Bah, c'est la vie. Je crois qu'il y a aussi un autre trait très chinois qui est quand même... Le chinois aime bien détruire, restaurer et faire différemment de ce qui était avant, contrairement aux japonais. Ce qui fait que la ville change. Elle se banalise. C'est dommage, c'est vrai quand même, que des quartiers ou des endroits historiques soient détruits de façon irrémédiable. Le livre, c'est aussi un pari. La ville change, mais reste la même, comme vous l'avez dit, dans son âme. On fait le pari que grâce aux Pékinois, Pékin restera Pékin.
Bon, et puis, il faut aller les voir, ces Pékinois, il faut aller voir Pékin. Alors, Chebingchu et Félix Torres, merci. On vous retrouve dès ce soir à 18h au Chahuan, pour le vernissage de l'exposition des photographies de Jean-Lionel Diaz, donc qui a participé à cet ouvrage, et une rencontre publique autour de votre livre et bien sûr de Pékin. Alors Pékin, c'est Métamorphose d'une ville impériale. Les auteurs sont Chebingchu, Stéphanie Olivier, les photographes Jean-Lionel Diaz et Li Yuqiang. La préface est de Pierre-Jean Rémy de l'Académie française.